Luc Delisle, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre dernier roman en date, intitulé 2013, année Terminus, et c'est paru aux éditions Les Impressions Nouvelles auxquelles vous êtes fidèle. Alors, ma première question porte sur le statut de ce livre. C'est une fable, dites-vous, mais c'est aussi une démonstration de ce que la fiction permet d'explorer non seulement le réel, mais aussi d'explorer la réalité du monde à travers le point de vue individuel.
C'est très juste, je suis obligé là de m'incliner devant votre formule. Je crois qu'on ne soupçonne pas à quel point la littérature, ce que j'appelle la littérature, est un moyen de connaissance du monde, à quel point c'est un révélateur, non pas de ce qui est vrai, hein, non pas sous la forme d'un reportage qui serait plus ou moins bien écrit, mais sous la forme d'une affabulation du réel. Hein. Inventer le réel, si vous préférez réinventer le réel, c'est-à-dire partir de ce qu'on croit, voir, capter, déconstruire et reconstruire différemment pour que le réel saigne enfin sa réalité essentielle. Ça, c'est un vrai travail d'écrivain, je pense. Lorsqu'on est dans la fiction générale, ça se passe ici, ailleurs, de nos jours, ou jadis, si c'est sous le ton de la ressouvenance et de la mémoire, le dispositif est au fond tellement évident qu'il en devient caché. Hein. On ne voit presque plus que la littérature ment pour dire la vérité. Hein. Pourtant, Dieu sait qu'il y a eu la formule célèbre. On cite souvent celle d'Aragon, hein, le mentir vrai, mais comme Aragon est quand même un spécialiste du mentir faux, je préfère celle de Cocteau qui dit « je suis un mensonge », qui dit toujours la vérité. Hein. Voilà, au fond, qui place la barre, ni haut ni bas, mais là où ça se passe. Lorsqu'on commet l'erreur, mais c'est une erreur évidemment volontaire et assumée, d'écrire en 2012 et de publier en 2012 un roman qui décrit, sous une forme de fable, mais avec les ressources quand même plutôt romanesques que intemporelles de la fable à proprement parler, évidemment, on prend le risque d'être attrapé très vite par la réalité. Le lecteur qui lit dans 6 mois, qui lit dans 1 an, pourrait dire « mais ce n'est pas exactement ce que vous dites que je vois autour de moi maintenant que nous sommes réellement en 2013, voire au début de 2014 ». C'est évidemment tout à fait voulu. Je ne détesterai pas qu'on lise en 2013 ou en 2014 un livre qui décrit un 2013 différent. Je ne suis pas prophète. Je pense que les écrivains qui veulent être prophètes sont d'abord des imbéciles qui perdent le sens du réel. Je suis quelqu'un qui dit « voilà ce qui se passe aujourd'hui, je vous l'écris du point de vue de demain ». Demain, bien sûr, fictionnel. Hein. Puisque nous voyons l'euro menacé, la crise, le Japon frappé l'année dernière d'un raz-de-marée terrifiant à presque de l'ordre de la fin du monde, la Chine qui monte, les États-Unis qui s'effondrent, Obama peut-être pas réélu, l'étrange nouveau président de la République que nous avons en France, ainsi de suite. Hein. Je prends tout ça comme jadis j'ai pris d'autres personnages, d'autres fins, d'autres rapports au réel, etc. Et je dis, faisons une histoire, mais je ne mens pas sur la caractérisation des choses. Je ne mens pas sur la société, je ne mens pas sur les cataclysmes, ni sur l'euro, ni sur le fonctionnement de la Banque Centrale Européenne, ni sur certains scandales qui ont secoué la planète, mais je ne prétends pas que je décris 2012, je dis voyons ce que ça donne si on les prolonge, hein, on me donne un début de trait, je tire la ligne, hein, et c'est vous qui avez donné le début du trait, je continue, elle devient de plus en plus pointillée la ligne, mais pourtant c'est à partir d'un axe qui a été fixé par le réel. Aller plus loin que le réel, plus vite, voilà au fond ce que j'essaye de faire.
Alors, pour ceux qui n'ont pas encore eu le bonheur de lire 2013 Année Terminus, il faut peut-être qu'on dise quelques éléments qui permettront de mieux situer ce que vous allez nous dire ensuite. C'est un roman dans la mesure où il y a un narrateur, il y a un jeu qui raconte. Mmh. C'est un narrateur qui est plutôt un intellectuel, il est professeur d'université et il écrit la nuit, apprend-on, et il a cette formule qui me semble d'une fulgurance extraordinaire et qui démontre aussi que vous êtes un poète et un vrai. Vous dites de lui, il est assez facile pour un esprit organisé, c'est-à-dire littéraire, de penser l'impensable. Et là, je pense que c'est une formule digne de celle de Cocteau, oublions celle d'Aragon.
Petite parenthèse sur Cocteau, qui est un auteur que je ne mets pas absolument au pinacle, mais qui est un vrai poète, hein, un vrai et grand poète. Il est coutumier depuis quelques 40 ans qu'il est mort de dire c'était un brillant touche-à-tout, etc. lorsqu'on entre dans certains textes de Cocteau, on voit l'évidence cruelle de son regard, hein, cette espèce d'assassinat par le regard dont il est capable, etc., et qui fait voler en éclats, comme une vieille tirelire vide, toutes les légendes qu'il peut y avoir sur lui. Donc je ne déteste pas, je trouve même un compliment, l'idée de formule à Cocteau. Cela étant...
Revenons au récit. Donc le narrateur à la première personne, pourquoi un narrateur à la première personne qui justement est un littéraire ?
Le narrateur, on apprend aussi qu'il a une famille. À certains moments, il appelle sa famille la famille D, hein, initiale analogue à celle de mon nom, etc. Je ne cache pas que je vous parlais de début de ligne droite issue du réel et puis prolongement dans l'invention, dans la fabulation, dans l'invisible. Je ne vous cache pas que c'est ainsi que je conçois aussi le rapport à mon personnage central. Vous avez peut-être remarqué, cher Jean, que ça fait déjà quelques romans qu'un personnage qui pourrait ressembler à celui qui vous parle maintenant est lancé dans des aventures qu'il ne prétend pas du tout avoir vues. Alors, c'est toujours la perplexité qui, évidemment, devient carrément criante dans 2013. Qu'est-ce que c'est cet écrivain qui attribue à un personnage qui ressemble comme un frère des actions qui parfois sont peut-être ce qu'il a connu et à d'autres semblent sauter dans le vide, hein. Eh bien, c'est simplement que je commence avec les éléments que la vie me donne et puis je poursuis avec ce que mon esprit littéraire, c'est-à-dire ingénieux, calculateur et lyrique, me suggère. Alors, est-ce pour le vrai, est-ce pour le faux? En tout cas, ça fait bouger l'œil. Il faut faire bouger l'œil. Il ne faut pas essayer de rendre compte du réel. Il faut essayer de rendre compte des devenirs possibles du réel.
Je me mets évidemment à la place de ceux qui ne vous connaissent pas, ouais, et qui ne peuvent pas deviner tous les points de similitude qu'il y a entre la vie de l'auteur et le narrateur.
Ça c'est indifférent. On n'est pas supposé me connaître. Et je veux dire, un auteur doit être posthume. On est bien d'accord.
Alors, ceci dit, ce que vous venez de nous révéler s'inscrit aussi dans la ligne de la construction de cet entrelacement entre ce qui est réel, ce que tout le monde connaît, ce que tout le monde lit dans les journaux, l'élection présidentielle d'Obama, le fait que des élections aux États-Unis soient proches, enfin tous des éléments, le suicide de ce pensionné sur la place Syntagma à Athènes, tous ces éléments sont réels. Et à cela, vous ajoutez d'autres éléments qui pourraient ressembler au narrateur, qui sont par exemple ce personnage de Claude Krigen-Cohen, qui est directeur général d'une institution internationale qui s'appelle le FMMA. Vous entrelacez comme ça des personnages qui ressemblent, et là c'est très subtil, c'est un personnage qui ressemble à Dominique Strauss-Kahn comme deux gouttes d'eau, mais Dominique Strauss-Kahn existe aussi en parallèle à ce personnage.
Il ne faut pas les confondre. Voilà. Et d'autre part, ce Claude Cohen, Krigen-Cohen, vous avez noté que ses initiales font CKC. Évidemment, c'est quelqu'un qui est au centre du dispositif du livre, parce que quelque chose se casse, quand quelque chose se casse par effet de domino, on peut dire que ça a notamment comme conséquence que l'euro va disparaître, sauf un seul pays qu'il conservera comme monnaie plutôt de singe, et que les États-Unis vont faire le choix d'élire Romney et non pas Obama. Hein. Alors, j'ai écrit ce livre avant la réélection avant l'élection de Hollande.
Oui, vous avez terminé, daté du 25 avril, et donc...
C'était prévisible, voilà, je pense. Il ne fallait pas être grand clair pour deviner. Là, je prends un risque calculé en annonçant qu'en 2013, c'est Mitt Romney qui est président de la République, enfin président des États-Unis. Si par hasard, j'étais démenti par un court-circuit dans le temps narratif, ça me fera ni chaud ni froid. Je veux dire, mon roman n'en serait que plus vrai, puisqu'on verrait, à la lumière de la réélection d'Obama, ce que donnerait l'élection de Romney. Je veux dire, la réalité ne disqualifie pas la fiction, elle la confirme à un autre niveau.
Ce qui est très impressionnant à la lecture de votre livre, c'est que, d'une certaine manière, c'est aussi un instrument de compréhension de mécanismes très complexes que le narrateur, c'est-à-dire qui peut penser l'impensable, est aussi en mesure d'expliquer ce qui est, volontairement ou pas, laissé dans un système de complexité tel que personne n'y comprend rien. Je pense aux notations, je pense au système de toute cette finance virtuelle qui existe. Alors comment, vous, Luc Delisle, écrivain et poète, avez-vous malaxé cette matière-là pour la rendre aussi limpide ?
J'ai fait quelque chose que je n'ai pas toujours fait de ma vie, qui est quand même favorisé par l'existence de la presse en ligne. C'est que depuis, je crois, septembre de l'année dernière, septembre de 2011, tous les jours, j'ai consacré une heure à lire la presse, et notamment la presse économique. Parce que j'avais l'impression que c'est là que le grand bouleversement allait se faire. Hein, je veux dire, il y a au fond deux grandes hypothèses, hein, ou trois. Hein. Le troisième, c'est une guerre avec les islamistes, etc. Le terrorisme devenant atomique. Et bon. La deuxième, c'est un grand bouleversement écologique. D'une certaine manière, le choc absolu que j'ai éprouvé ces dernières années, c'est le cataclysme qui a frappé le Japon. Le livre commence comme ça. Pour moi,
pour vous, c'est le point de naissance.
Un coup de cymbale de la fin du monde. Ouais. Bon. Et puis le troisième, c'est un bouleversement économique suffisamment radical pour qu'au fond, notre système de vie en soit changé. C'est grosso modo plutôt l'option que j'ai prise, même si les deux autres signaux sont présents dans le livre comme des effets amortis d'une crise future. Et donc, notamment, il y a ce changement de société lié à un grand, non pas un complet, mais un grand effondrement, une grande modification du système économique. Avec des effets de réel, parfois tout simples. Plus aucun ascenseur ne fonctionne parce que c'est trop coûteux d'entretenir les ascenseurs. Donc, on n'attend pas qu'ils tombent en panne. Et dans les tours, etc., les gens doivent, ceux qui étaient les privilégiés, ceux qui habitaient au sommet sur les terrasses verdoyantes, doivent descendre de nombreuses marches pour rejoindre. Il y a des travaux d'utilité publique obligatoires tous les jours. Et puis alors, il y a les petits détails qui, selon moi, ne trompent pas. La disparition du chocolat et du café. Puisque mon narrateur est un chantre de la jouissance du café. Et donc,
et les enfants du narrateur sont au désespoir parce que le chocolat a disparu.
Ben oui, il n'a pas absolument disparu, mais il est devenu tellement rare et cher que ça passe un peu les moyens d'une famille normale.
Alors vous glissez aussi dans ces éléments qui mêlent à nouveau le réel, le plausible et le prospectif, vous mêlez aussi des éléments qui sont particulièrement inquiétants, comme par exemple l'obligation dans laquelle se trouvent certains métiers, certains professionnels, d'exercer en privé le même métier, notamment les policiers. Mmh. Où là, nous entrons dans une société qui devient particulièrement préoccupante.
Ah oui, mais beaucoup de choses, je les ai inventées, mais encore une fois, à partir du réel. L'histoire des policiers et des fonctionnaires grecs, car il s'agit de la Grèce, qui sont amenés à exercer un deuxième métier ou à prendre congé de leur métier principal pour faire un métier qui est presque contradictoire, presque l'opposé. Par exemple, un contrôleur des impôts qui devient conseiller fiscal pendant ses vacances. Et avec l'encouragement du gouvernement qui donne des mauvaises notations aux fonctionnaires qui refusent de faire autre chose que leur fonctionnariat, c'est quelque chose que je n'ai inventé qu'à 3%. Ça se trouvait dans des journaux. Je pense que j'ai lu ça dans un article en ligne du Figaro aux alentours de mars 2011. Quoi.
C'est une déclinaison du principe selon lequel les meilleurs douaniers sont les anciens fraudeurs, mais ici on inverse le processus.
Je pense malheureusement qu'on inverse le processus. Je pense que de ce point de vue-là aussi, et pas seulement pour des raisons économiques, la Grèce est le laboratoire de l'évolution de l'Europe actuellement.
Alors, parmi les personnages réels, historiques, réels, qui jalonnent votre roman, se trouvent quatre penseurs, quatre philosophes, quatre personnalités qui sont toutes quatre quasi-centenaires.
Nonagénaires, restons modestes, nonagénaires.
Nonagénaires, en 2013, nonagénaires. Edgar Pisani, Edgar Morin, Stéphane Hessel et Manolis Glezos. Ouais. Alors, un mot sur chacun d'entre eux et sur ce qu'ils apportent en particulier. Edgar Pisani, on se souvient que c'était un des anciens commissaires, notamment chargé de l'aide au développement au début des commissions de l'Europe.
Je n'irai pas jusqu'à dire que Pisani est un penseur, mais c'est certainement un esprit réellement inventif dans son époque, qui avait la capacité d'exercer ses fonctions, parce qu'il était aussi ministre de l'Agriculture, dans un contexte avec une liberté de manœuvre, avec une volonté personnelle et un caractère spécifique qui était tout à fait hors norme, mais en tout cas qui ne ressemble pas à ce que nous pouvons connaître actuellement sous ce nom et dans ce type de portefeuille du ministère. Morin, bonjour, il y a peu de choses à dire, je veux dire, je leur attribue chaque fois un apport particulier, et ainsi de suite. Donc j'ai été chercher des gens dont là, et Stéphane Hessel, nous le connaissons tous désormais.
Par contre, Manolis Glezos, là, vous pouvez peut-être en dire un mot, parce qu'il est peut-être moins connu du public français.
Je voulais un grec, et ça tombait bien qu'il y en ait un nonagénaire. Guerre, et représente au fond une pensée d'opposition très active au moment où nous parlons, alors qu'il est coutumier de penser que les nonagénaires survivent et éventuellement peuvent apporter des témoignages, mais il est rare qu'ils apportent des actions. Hein. Ce qui est frappant dans les quatre noms qu'on a cités, peut-être un peu moins Pisani, où j'ai inventé un petit peu le rôle que je lui attribue.
C'est pour ça que je le situais moi, plutôt dans ses fonctions européennes, puisqu'on était dans...
Et ce qui est rare, c'est que deux ou trois de ces quatre nonagénaires sont réellement en train d'apporter, au fond, un point de vue qui est la combinaison entre une énergie de jeunesse, hein, au sens sociologique du terme, et évidemment une expérience quasi séculaire.
Est-ce que ce n'est pas aussi une mémoire plutôt qu'une expérience ?
C'est une mémoire, mais enfin une mémoire au service d'une action, ça, on peut appeler ça de l'expérience, mais vous avez raison. Et alors, il y a évidemment le cinquième nonagénaire, en tout cas il sera nonagénaire en 2013, qui est peut-être le plus épatant de tous, et auquel je consacre davantage de lignes ou de pages, c'est Freeman Dyson, hein, l'archétype du grand savant qui n'a pas été nobelisé mais qui est plus nobelisable que tous les autres.
Il fait partie des prix, des non-prix Nobel.
Frappants, voilà. Qui est toujours dans la... et qui a notamment inventé, c'est peut-être un peu loin d'en parler, un peu long d'en parler en détail ici, le concept de la sphère de Dyson qui pourrait être, dit le narrateur et raconte le livre, une solution pour trouver une perspective à moyen terme au problème d'extinction de l'énergie, d'excès de la pollution, etc. Et donc j'explique qu'il fait une proposition mondiale absolument fabuleuse, que j'invente, mais sur base de ce qu'est Dyson et de ce qu'ont été ses travaux. Et il apparaît que pour assurer à l'humanité sa survie au-delà de ce siècle-ci, et pour lui donner des ressources énergétiques, il faudrait consacrer pendant 250 ans, 6% des ressources mondiales. Et le comité des sages du monde décide que c'est trop cher et que la survie de l'humanité ne vaut pas 6% du PIB mondial. Donc là, on est dans la fable, puisque c'est purement affabulé, mais encore une fois, je ne fais pas dire ou faire à Freeman Dyson des choses qui seraient hors de sa portée. Son esprit paradoxal, inventif, travailleur, pertinent, son rapport très curieux à la Bible et bien d'autres choses encore, pourrait justifier cette attitude à la fois scientifique et messianique que, bien sûr, je lui attribue de la même façon que faisant l'oraison funèbre de Depardieu à l'occasion de la mort de Depardieu. J'en profite pour dire sur Depardieu des choses dont un ou deux de mes premiers lecteurs m'ont dit « Tu n'as pas peur que Depardieu le prenne très mal ?» Mais c'est une description, c'est un tableau shakespearien, selon moi, de Depardieu. Certes, je le décris avec ses dehors négatifs, mais il en a à l'évidence, mais je montre aussi l'espèce de monstre de théâtre et de représentation du monde qu'il représente. Et donc, inventer sa mort, pour moi, c'est inventer sa vie.
Revenons à Dyson et à sa théorie de la sphère, parce que dans ce que vous décrivez, il y a d'une part cette théorie qui n'a pas été mise en œuvre, mais elle n'a pas été mise en œuvre pour des raisons qui sont des raisons d'un cynisme financier et de vision à court terme, qui là n'est plus de la fin.
Parce que si la proposition de Dyson, sous la forme que je décris, n'existe pas, hein, et ne peut peut-être pas exister, quoique ce soit un modèle à la fois énergétique et économique et scientifique et prospectif, hein, il est clair qu'à d'autres niveaux, on a l'impression que tous les ans, des choix qui sont essentiels pour que nous puissions avoir notre espèce, en tout cas un avenir à 100 ou 200 ans, ces choix sont pris dans le sens du non, dans le sens dont non, nous ne financerons pas la survie de notre espèce après nous, individus. Et d'une certaine manière, même si je ne le dis pas dans le livre, mais je peux vous le dire à vous et à nos auditeurs, hein, en poussant un petit peu, on peut dire que je suis un déçu de 1969. 1968, je m'en fiche, comme de m'avoir pris un clone. 1969, j'avais 16 ans, je crois, et j'étais en vacances dans le Périgord, et l'homme était sous la lune. Il y avait un journaliste de radio que vous avez peut-être connu, qui s'appelait Albert Ducrot. Oui. Et Albert Ducrot, sur Europe 1, commentait minute par minute. Et nous étions, enfin, j'étais dans une espèce de persuasion collective dont je ne connais aucun équivalent, même 68, mais indifférent, j'étais peut-être trop jeune. La chute du mur de Berlin, intéressant, mais En 1969, l'homo spatialis était né. Nous allions, hein, au moment où nous parlons maintenant, 40 ans après, nous serions dans les étoiles et nous irions décrocher la Lune. Etc. Et puis, de ce point de vue-là, certes, il y a eu d'autres bouleversements et sans doute l'informatique a plus d'incidence pour nous que la conquête de la Lune, mais cette perspective que nous ne serions pas arrivés pour toujours à cette planète et que si elle mourait, on dirait porter la vie ailleurs, était extrêmement dynamique. Je pense qu'implicitement, elle m'a porté toujours. Aujourd'hui, en 2012 ou 13, hein, aujourd'hui, demain, en 2012-13, il apparaît bien clairement que nos enfants non plus ne connaîtront pas l'homo spatialis, que c'est remis à une date ultérieure, mais comme dans un certain album de Tintin, la phrase « la fin du monde est remise à une date ultérieure » est prononcée. Et je crains que si elle est remise à une date ultérieure, cette date ultérieure existe déjà et n'est pas simplement une possibilité parmi d'autres. Je le regrette. Je pense que l'espèce humaine vaut le coup et que c'est bête que des gens qui ont le pouvoir de l'argent à des titres divers, plutôt par bêtise que par cynisme, je pense, fassent tous les jours les choix qui pourraient un jour nous condamner. Parce que c'est la course contre la montre entre avoir les moyens de sortir de cette planète et que la planète crève avant que nous en soyons sortis. Et pour le moment, cette course, on est en train de la perdre.
Ce qui me frappe dans l'évocation que vous faites de ce 21 juillet 1969, du premier pas de l'homme sur la Lune, c'est que vous évoquez la façon dont vous l'avez vécu à travers la radio et la voix d'Albert Ducrot sur Europe 1. Est-ce que le fait de l'avoir perçu de manière sonore a modifié peut-être, accentué l'importance?
Sans doute que j'aurais pu être à l'intérieur de la maison ou de l'hôtel, je crois que c'est un hôtel où il y avait la télévision, mais à l'extérieur, où il n'y avait pas d'écran, surtout à cette époque, on voyait le ciel. Donc on pouvait, c'était le 21 juillet, on pouvait regarder la Lune tout en entendant Ducrot. En plus, Ducrot était un poète. Je veux dire, il portait la Lune. On peut dire que si les Américains ont conquis la Lune, c'est aussi un petit peu parce qu'Albert Ducrot portait de sa parole l'expérience euphorisante et de lévitation.
J'essaierai de retrouver un extrait de la voix d'Albert Ducrot, parce que c'est vrai qu'il avait aussi cette musique de la voix grave. Et
Ducrot, dont je sais peu de choses, était d'ailleurs un pionnier de l'informatique français et avait inventé un objet dont je ne connais que le nom, le renard électronique. Mais lui-même était une sorte de renard électronique, je pense.
C'est vrai. Alors, un dernier aspect que j'aimerais qu'on évoque de votre roman, parce qu'il me semble aussi essentiel dans l'approche romanesque d'une réalité ou d'une réalité fabulée, c'est que le roman, finalement, est ce qui permet d'aborder un événement, qu'il soit planétaire, à travers la tragédie individuelle qu'il peut représenter. Et là, je pense à deux exemples que vous donnez, le suicide de ce pensionné sur la place Syntagma, et puis alors le martyr qu'a vécu Oksana Makar, dont je n'ai pas vérifié si c'était une fiction dans laquelle vous rassembliez toute une série d'actes de barbarie auxquels on assiste sur Internet en direct, ou si elle a vraiment vécu. C'est la tragédie individuelle.
Au fond, ce livre est amorcé, ou en tout cas la tragédie mondiale, ou la tragicomédie mondiale que traverse l'humanité dans l'espace de mon livre, est amorcée par une série d'effets de réel. Il y a, on l'a dit, le grand raz-de-marée et le bouleversement des centrales atomiques du Japon. Et puis alors, il y a eu des choses qui étaient statistiquement moins importantes, ce n'était que des individus. Il y a le type qui s'est tué. J'ai mis en scène, en parlant d'un camarade qu'il photographiait, etc. C'est pas exactement comme ça que c'est passé, ce vieil homme qui s'est tué par désespoir national sur la place Syntagma à Athènes. Et puis, s'agissant d'Oksana, j'ai simplement raconté avec mes mots un article que j'avais lu et qui m'a bouleversé. Donc, au fond, c'est une fiction parce que je l'ai prise et écrite pour le sens émotionnel que ça a répercuté. Mais du point de vue de l'anecdote, je n'ai pas inventé. C'est à peu près exactement comme ça que cette fille est morte. Et ce qui m'a le plus bouleversé, déjà, c'est l'horreur. Ces gens qui violent et puis qui après tuent. Et sont tellement paresseux qu'ils tuent mal et puis ils inondent d'essence, ils mettent le feu sans même voir si la fille est morte. Et puis surtout leur défense quand ils ont été arrêtés, c'est « on avait faim, on était pressé d'aller chercher un kebab ». C'est le mot « kebab » au fond qui est le plus accablant avant tout. Non pas que je n'aimasse pas les kebabs, je les aime pas beaucoup, c'est vrai, mais peu importe. Mais c'est l'idée que tout ça, c'était juste parce qu'ils avaient faim, quoi. Sinon, peut-être, ils l'auraient tué proprement. Et perdu pour perdu, ils n'auraient pas souffert le martyr.
Alors Luc Delis, on va mettre un terme à cet entretien qu'avec vous, on le sait, on peut prolonger indéfiniment. Je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de se plonger dans 2013, année terminus, qu'ils le fassent en 2012 ou en 2013 et qu'ils commencent en 2012 ou ensuite poursuivent la lecture en 2013. Je pense que l'intérêt va bien au-delà de la date qui figure sur le titre. Et je voudrais aussi terminer en évoquant le fait que le roman se termine par un poème. Mmh. Et peut-être vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un poème et à le placer là, à la fin de ce roman.
Ben, ce qui m'a permis d'avoir cette idée assez simple d'ailleurs, hein, c'est que le livre finit, mais bien sûr avant son arrêt pour la fabrication chez l'éditeur, je commençais à me dire comment vais-je accompagner ce livre avant sa sortie, pendant sa sortie. Hein. Qu'est-ce que je peux faire en plus pour lui, en tant qu'écrivain, pas en tant que parleur ou voyageur, etc. Et on est quand même dans l'ère d'un blog. Un blog autour d'un livre, pour moi, ça ne doit pas être son commentaire, ça ne doit pas être l'explication ou les bonus où on publie des fragments qu'on a laissés tomber, je les recycle, etc. Ça doit être trouver une autre manière, mais réellement autre, de dire la même chose. Et je me suis dit que la poésie pouvait être cette solution-là. Et donc j'ai commencé à écrire d'abord ce poème-là, qui finalement se trouve à la fin, et qui est une espèce de déprofondis entre joie et peine. Et puis, pour le moment, je suis en train d'en écrire d'autres, en prose, qui paraissent dans un blog qui s'appelle « 2013 a eu lieu », et qui vont accompagner ces semaines-ci. Et le premier des poèmes que j'ai écrit s'appelle « Oksana », puisqu'on a parlé d'Oksana, et il parle à Oksana avec les moyens du poème.
Très bien. Donc, à nouveau, c'est une confirmation que la lecture de 2013 doit se prolonger, que ce soit dans le temps ou dans l'espace virtuel de ce blog. Luc Delis, je vous remercie pour cet entretien.
Moi
et puis pour ce roman, paru aux Impressions Nouvelles. J'en rappelle le titre, 2013, année terminus. Merci Luc Delis.
Merci à vous.